Vous êtes bien au chaud sur France Inter, il est 19h. Et le journal, c'est Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. La rue fait plier la Chine à Hong Kong. L'exécutif retire son projet de loi sur les extraditions après 3 mois de manifestations. L'opposition va-t-elle entendre l'appel au calme? Pas sûr. Nous sommes à Hong Kong dès le début du journal. Nous sommes aussi à Londres où les députés viennent de mettre une nouvelle claque à Boris Johnson. Ils veulent un projet de loi qui prévoit de demander un nouveau report du Brexit à Bruxelles. Antoine Gignot nous explique tout cela dans un instant. Au sommaire également ce soir, le dissident Villani qui se lance officiellement à Paris, le mafieux italien arrêté en Bretagne après 1 an de cavale, ce buste d'Hitler dans les caves du Sénat, une enquête est ouverte, la mort du photographe Peter Lindbergh et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien on va parler de génétique récréative, figurez-vous. Est-ce que vous avez la curiosité de vos aïeuls à l'autre bout du monde peut-être? Est-ce que vous avez une demi-sœur cachée en Australie, Sébastien? Allez savoir, ces kits ADN sont interdits en France mais avec Internet c'est facile et vous êtes plusieurs milliers à y avoir déjà succombé. Peut-être est-ce aussi dangereux? Qu'est-ce qu'on a réellement envie de savoir? Qu'est-ce qu'on sait de ce que nous dit notre ADN? Et qu'est-ce qu'on fait de nos données aussi? 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce n'est pas encore un tournant, mais c'est donc une première victoire pour la rue à Hong Kong. L'exécutif fait marche arrière. Après 3 mois de contestation, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, annonce le retrait de son projet de loi controversé sur les extraditions qui devait permettre d'envoyer des suspects en Chine.
Mes chers concitoyens, depuis plus de 2 mois, des manifestations contre ce projet de loi se sont poursuivies. Les incidents nés de ces manifestations ont choqué et attristé les gens de Hong Kong. Ne devrions-nous pas nous demander si une escalade de la violence et des désordres font partie de la solution ou s'il ne serait pas préférable de trouver une porte de sortie par le dialogue? Le gouvernement va formellement abandonner le projet de loi. De manière à apaiser les inquiétudes du public, le secrétaire à la sécurité préparera un texte en ce sens dès que le Conseil législatif reprendra. Il faut trouver des solutions.
Carrie Lam appelle donc les manifestants au dialogue, elle leur demande de renoncer à la violence. Sera-t-elle entendue? C'est encore un peu tôt pour le dire, même si l'opposition n'a pas l'intention de baisser les bras pour l'instant. Florence de Changy est sur place à Hong Kong pour Inter.
Pour les manifestants et le camp pro-démocratie de Hong Kong, les mesures offertes par Carrie Lam sont globalement trop peu et trop tard. Elle a joué avec les mots sur plusieurs demandes en laissant par exemple à la police le rôle de la commission d'enquête sur les violences policières, mais en lui adjoignant 2 experts internationaux. Carrie Lam a souligné que les actes de vandalisme contre le drapeau chinois étaient intolérables. Remplaçons le conflit par le dialogue, a-t-elle proposé. Mais la députée Claudia Mo, porte-parole du camp pro-démocratie, dénonce un geste tactique.
Pourquoi ? Parce que maintenant, elle va pouvoir dire « Tous ces désordres, c'était à cause du projet de loi d'extradition vers la Chine. Maintenant qu'elle l'a retiré entièrement, si les désordres continuent, Carrie Lam aura l'excuse parfaite de demander à la police de réprimer les manifestants avec encore plus de force. »
Les manifestants ont maintenu l'un de leurs slogans majeurs « Répondez à nos 5 revendications ». Pas une de moins. Sur les réseaux sociaux, de nouveaux appels à la mobilisation étaient lancés, y compris dès mercredi soir autour du Parlement. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Hong Kong, ancienne colonie du Royaume-Uni, où se joue l'autre actualité ce soir, à l'étranger, avec la sortie ou pas de l'Union européenne que le nouveau Premier ministre Boris Johnson a programmé pour le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Sauf que les choses ne se passent pas comme il l'entend, il perd sa majorité aux communes dès le retour de vacances hier. Et le contrôle du calendrier par ses opposants qui veulent éviter un Brexit sans accord. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Ils ont fait organiser un vote qui l'oblige à aller négocier à Bruxelles un report du divorce, report qui vient de passer. C'est une première étape, Antoine.
Oui, il reste à voter les modalités de ce report du Brexit. Mais sur le principe, les députés valident le texte. 329 voix du côté de l'opposition, 300 seulement pour le côté du gouvernement. C'est un score encore plus mauvais qu'hier soir pour le Premier ministre Boris Johnson, lâché par une partie des députés conservateurs et qui voit sa stratégie d'intimidation, de passage en force se retourner contre lui en menaçant les rebelles de les exclure du parti. Il a fait monter la colère. Pire, Les députés qui partent rejoindre l'opposition sont des poids lourds du Parlement, des anciens ministres comme Philippe Hammond ou Ken Clark, des députés qui, du coup, risquent de continuer à s'opposer à la politique de Boris Johnson. C'est une purge nord-coréenne, commente un conseiller du 10 Downing Street, une purge en tout cas inédite et contre laquelle le Premier ministre ne peut rien faire. Privé de majorité, il n'est même plus en mesure ce soir de déclencher des élections anticipées.
Et à Bruxelles, merci Antoine Gignot en direct de Londres. On est sceptique sur la possibilité d'un nouvel accord avant le 31 octobre et la Commission estime que le risque d'une sortie sans accord a progressé. Elle juge aussi que le filet de sécurité irlandais que Boris Johnson veut retirer est la seule solution pour sauver l'accord de paix nord-irlandais et le marché unique.
Allez, à 19h06, Paris vaut bien deux candidats en marche.
La confirmation devrait être officielle dans les toutes prochaines minutes. Cédric Villani se lance dans la course à la mairie de la capitale. En plus de Benjamin Griveaux, officiellement investi par le parti présidentiel. Bonsoir Karine Bécard.
Bonsoir.
Le mathématicien député de l'Essonne est en train de l'annoncer depuis un café du 14e arrondissement où vous vous trouvez. Candidature qui a tous les parfums du macronisme. Hein.
Oui, c'est presque un copier-coller avec ce qu'avait pu faire Emmanuel Macron il y a un peu plus de 3 ans, quand il avait, souvenez-vous, lancé son mouvement En Marche au nez et à la barbe du président François Hollande après un discours, une soirée organisée à Amiens, sa ville, là où il est né. Ce soir, Cédric Villani suit les pas de son maître en politique. Il est dans son 14e arrondissement, là où il habite aujourd'hui, là où il s'était installé quand il était arrivé étudiant à Paris. Il s'affiche lui aussi en homme libre, libre des contraintes d'un parti, prêt à son tour à se lancer dans une toute nouvelle aventure. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde ce soir dans ce café La Gaîté. Il y a bien plus d'une centaine de personnes, ça c'est certain. Beaucoup n'ont d'ailleurs pas pu rentrer. Des soutiens, des militants, des gens qui sont avec lui depuis le début. Reste à savoir maintenant comment tout cela va tourner. C'est vrai que pour l'instant, l'entrée en campagne de Benjamin Griveaux a été on ne peut plus compliquée. La dynamique depuis plusieurs semaines maintenant est incontestablement du côté de Cédric Villani.
Oui, Karine Bécard, en direct de ce café de la rue de la Gaîté à Paris avec Arthur Gerbeau, merci. Le candidat sans étiquette Gaspard Ganzer a exclu de son côté toute alliance avant le premier tour. L'ancien conseiller communication de François Hollande renvoie dos à dos Anne Hidalgo et son bilan boulet, dit-il, et ce qu'il appelle le duel fratricide de la majorité. Quant aux ministres qui seront candidats aux municipales, eh bien ils pourront rester au gouvernement pendant la campagne, mais ils devront choisir s'ils sont élus. Précision en forme de filet de sécurité donné par Édouard Philippe tout à l'heure à la sortie du séminaire gouvernemental. Le Premier ministre qui promet aussi de préciser méthode et calendrier de la réforme des retraites dans le courant de la semaine prochaine. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, en dira peut-être plus demain. Elle sera au micro d'Inter à 8h20. Là aussi, c'est un dossier chaud pour l'exécutif. Les suppressions de postes au ministère de l'Action et des Comptes Publics, 5800 d'ici la fin du quinquennat, a dit hier Gérald Darmanin. Le budget, c'est le cœur de Bercy qui chapeaute aussi les finances publiques. Alors allons voir comment l'annonce a été accueillie dans cette petite trésorerie près de Toulouse. Où est allé Alain Gastal?
Et pas le moindre contribuable en vue ce matin au centre des finances publiques. On dit ici la perception de Caraman. 2500 habitants à 30 km de Toulouse. Constat partagé par Dany, le postier qui fait sa pause cigarette juste à côté.
Le problème, c'est que moi, la trésorerie, je n'y mets jamais les pieds. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait?
À l'intérieur, les 4 fonctionnaires plus une chef de poste reconnaissent 20 à 30 clients par semaine, avec une pointe le jeudi matin, jour de marché. Mais la fermeture programmée en janvier posera quand même quelques problèmes.
Pour les personnes âgées que je vois venir, s'il faut leur expliquer que l'impôt, il faut aller jusqu'à Toulouse, ceux qui n'ont pas internet, et on en a encore beaucoup en campagne surtout, ça va devenir compliqué, oui.
À l'accueil de la mairie, tout près de là, une pétition réclame le maintien de la perception et le maire Jean-Clément Cassan le reconnaît. Il a peut-être davantage que ses contribuables besoin d'une perception à proximité.
Ils reçoivent l'argent pour nous, ils contrôlent que les quelques dotations qui nous restent nous parviennent et puis ils contrôlent l'utilisation des fonds publics. La comptabilité publique, c'est un métier et ça ne s'apprend pas comme ça avec des formations qui durent un jour. Hein.
Dans le département, la moitié des perceptions sont vouées à disparaître. Elles seraient regroupées dans des unités plus conséquentes, intégrées à des maisons de services publics ou remplacées par des buralistes.
Reportage signé Alain Gastal à Caraman. À la page écho encore, cette amende record, 4 millions d'euros pour Amazon en France. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
La justice condamne le géant américain du commerce en ligne pour clause abusive, imposé à ses fournisseurs.
Oui, ses fournisseurs, c'est-à-dire les petites entreprises françaises qui vendent leurs produits sur Amazon. Ces PME utilisent la notoriété du géant américain pour trouver des clients. Il y a donc par nature un déséquilibre entre la plateforme commerciale et les sociétés qui vont dessus. Et bien sûr, c'est le poids lourd Amazon qui impose ses règles. Possibilité de clore sans explication ni préavis le compte d'un vendeur, exiger des délais de livraison plus courts ou encore demander aux fournisseurs d'avancer les frais en cas de problème de livraison au client final. En tout, il y a une dizaine de clauses comme celle-là qui était dans le collimateur de Bercy, à qui le tribunal de commerce de Paris donne donc raison. Amazon a 6 mois pour modifier ses conditions générales d'utilisation sous peine d'une amende supplémentaire de 10 000 euros par jour de retard. La plateforme commerciale assure de son côté avoir commencé à se mettre en conformité avec le code du commerce. La Confédération des petites et moyennes entreprises demande maintenant à Amazon de signer sa charte des acteurs du e-commerce. Charte signée pour l'heure par toutes les plateformes, à l'exception notable d'Amazon et du chinois Alibaba.
Et aux États-Unis, merci Fabien, c'est Google et sa filiale YouTube qui sont condamnés 170 millions de dollars d'amende pour avoir exposé des enfants à des vidéos inappropriées et ou en collectant des données sur eux.
Un nouveau gouvernement en Italie.
Formé comme le précédent par le Premier ministre Giuseppe Conte, le mouvement 5 étoiles anti-système obtient 10 portefeuilles, notamment les affaires étrangères confiées à Luigi Di Maio. L'intérieur, laissé par le bruyant Matteo Salvini, revient à une femme sans étiquette, Luciana Lamorgese, ancienne préfète de Milan. Toujours à propos d'Italie, l'arrestation hier en France d'un mafieux calabrais, un homme condamné à 6 ans de prison mais qui avait pris la fuite. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Et qui s'était installé dans le en Bretagne.
Oui, c'est un homme de 62 ans que les policiers ont interpellé hier après-midi à Arzon, dans le Morbihan, effectivement, et qui n'a opposé aucune résistance selon nos informations. Mais ce qui est assez incroyable au vu du profil de ce fugitif, c'est que Mario Micheli vivait sous son vrai nom. Il avait même créé une société de nettoyage, a priori, à la fin de l'année dernière, selon un proche du dossier. Les enquêteurs italiens, eux, avaient mis sa famille sur écoute et sous surveillance, et ils ont su que sa fille, après son mariage, est venue rendre visite à son père cette été. Mario Micheli avait fui l'Italie avant la décision de la Cour de cassation qui a confirmé sa condamnation à 6 ans de prison pour appartenance à une organisation criminelle et pas des moindres, la mafia calabraise de la 'Ndrangheta, condamnée également pour extorsion de fonds. L'enquête devrait permettre de savoir si la société de nettoyage à Arzon n'aurait surtout pas servi de blanchisseuse pour des fonds mafieux. En attendant, c'est à la Cour d'appel de Rennes de prononcer maintenant l'exécution du mandat d'arrêt européen en vue de son transfert à Rome.
Emmanuel Leclerc, le front du feu, toujours d'actualité dans la forêt amazonienne, alors qu'une équipe de la sécurité civile française arrive en Bolivie. 6 premiers sapeurs-pompiers qui viennent prêter main forte à leurs collègues boliviens. D'abord par une mission de reconnaissance, comme le précise le lieutenant-colonel Rodolphe.
Notre but est très clair, c'est faire une reconnaissance et une évaluation des besoins, de la situation opérationnelle sur zone, pour voir sous quelle forme nous pourrons aider au mieux nos collègues boliviens à lutter contre ce sinistre. Nous sommes tous formés et experts en feu de forêt. Nous n'allons pas combattre directement le feu lors de cette mission, puisque là on est sur une reconnaissance et une évaluation. Par contre, nous allons aller au contact des sinistres et au contact des pompiers locaux. Nous y allons avec la plus grande humilité parce que on a nos homologues boliviens qui ont une connaissance du terrain que nous n'avons pas pour le moment. La reconnaissance se fait sur les incendies en cours. Ce n'est qu'un premier maillon de la chaîne. La reconnaissance et l'évaluation va nous permettre à 6 ensuite peut-être d'engager des moyens supplémentaires, mais de le faire de manière vraiment ciblée et d'être sûr que l'aide qu'on apportera sera efficace.
Et un détachement de 46 personnes pourrait les rejoindre à la fin de la semaine selon les résultats de ces opérations de reconnaissance.
Il y a donc un buste d'Hitler dans les sous-sols du Sénat.
Oui, c'est le quotidien Le Monde qui a enquêté sur ce qui n'était jusqu'ici qu'une rumeur et le journal a obtenu confirmation, photo à l'appui. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Le Palais du Luxembourg ouvre une enquête sur ce qui n'est pas la seule relique de l'occupation nazie.
Oui, il y a le buste d'Hitler de 35 cm mais aussi un drapeau nazi, du mobilier orné de l'aigle du Troisième Reich ou encore des documents de correspondance en allemand. Voilà les objets stockés dans les sous-sols du Sénat. Le journal Le Monde en dresse une liste après une longue enquête, mais elle n'est pas exhaustive, cette liste. Le journaliste n'a pas pu accéder à cet abri de défense passive, c'est son nom. Le Sénat lui a transmis une photo du fameux buste qui date sans doute de la période d'occupation entre 40 et 44. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, avait installé une partie de son état-major dans le palais du Luxembourg. Mais alors pourquoi ces objets nazis ont-ils été conservés si longtemps? Tant au Sénat, certains semblent avoir partagé la confidence. Mais dans l'article du Monde, des sénateurs s'étranglent en apprenant la nouvelle. Le président du Sénat, Gérard Larcher, demande aujourd'hui à la questure qui administre l'institution de mener une enquête.
J'ignorais la présence de ce buste, hein, je vais tout vous dire. J'ai demandé à la caissière d'approfondir les recherches, d'ailleurs, sur l'ensemble des objets. Je suis certain que les services n'ont rien cherché à cacher. Ils n'étaient pas répertoriés, d'après le rapport que j'ai, sauf pour un drapeau qui est en cours d'inscription dans les archives. J'ai demandé à la caissière, ils auraient mieux fait d'être répertoriés.
Et il souligne aussi le rôle, je cite, patriotique de certains agents du Sénat à l'époque. Et l'affaire, ce soir, en tout cas, atteint aussi l'Assemblée nationale. Le député Philippe Gosselin a écrit au président de son institution pour demander une enquête également. Le Palais Bourbon a lui aussi été occupé par les nazis.
Qu'y a-t-il dans les sous-sols de l'Assemblée nationale? Merci Rémi Brancato. Gaël Monfils entre en piste et d'ici une heure à l'US Open pour tenter d'atteindre sa troisième demi-finale en Grand Chelem, la deuxième à New York. Le Français est opposé à l'Italien Matteo Berrettini, et le match a lieu sur le Central Arthurage, du nom de l'ancien champion noir américain. 23 000 places, c'est le plus grand stade de tennis du monde. Et sur ce court, eh bien, mon fils ressent des émotions qu'il n'a nulle part ailleurs. Il l'a dit à Fabrice Abgral.
Il a le nom de mon idole, tout simplement. Il a le nom de mon idole. Moi, j'ai des joueurs des matchs de dingue là-bas, sur le H à chaque fois, des beaux matchs. Moi, je kiffe, moi. Tu vois, j'arrive, je kiffe, je trouve ça incroyable, quoi. Donc, je sais pas, moi, c'est un plaisir de dingue, quoi. Je trouve que, ouais, c'est une chance de fou. J'ai des frissons, mais de kiff, quoi. Je me dis, tain, c'est incroyable, la chance de pouvoir jouer dessus, la chance d'avoir une ambiance de dingue, je trouve ça incroyable, quoi. J'adore, moi, ici. Pour moi, c'est un beau terrain, c'est un beau match en perspective, donc à moi d'être vraiment prêt, parce que ça va être encore un gros quart de finale, quoi.
Début de la rencontre donc d'ici une heure, heure de Paris, si le calendrier est tenu. On termine avec la disparition d'un photographe dans les portraits en noir et blanc dans des décors industriels. On fait la une des plus grands magazines. Peter Lindbergh est mort hier. On lui doit des clichés célèbres des mannequins Cindy Crawford, de Naomi Campbell, de Kate Moss. Plus récemment de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et de la militante suédoise Greta Thunberg. Vous les retrouverez tous sur le site d'Inter. Et puis il y a cette photo. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
De Christy Turlington, de Linda Evangelista, de Tatiana Patitz et d'autres. En chemise blanche, on est sur la plage de Malibu en 88.
Voilà, une photo peut-être encore plus représentative que les autres de son travail. Des femmes naturelles, sans maquillage, sans artifice, capturées dans l'instant. Peter Lindbergh ne retouchait que très peu ses photos. C'était une de ses marques de fabrique. Less is more. Moins on en fait, mieux c'est. Avec toutes ces femmes, Naomi Campbell, Christy Turlington, Kate Moss, il a su non seulement capter l'essence d'une époque, les fameux supermodèles des années 90, mais il a aussi complètement révolutionné la façon de photographier la mode en s'attachant à la personnalité de ses modèles plutôt qu'à ce qu'elles portaient. Ce qui lui a valu d'ailleurs au départ pas mal de critiques dans un monde où il n'est pas toujours facile de transgresser les règles. C'est Anna Wintour, la grande papesse du magazine Vogue aux États-Unis, qui était la première à tomber sous le charme de ses clichés, toujours en noir et blanc, très cinématographiques, et dans lesquels il projetait l'image d'une femme forte, libre, indépendante, affranchie des codes sociaux et du regard des hommes. Toutes ces femmes ce soir, évidemment, pleure la disparition de Peter Lindbergh après 40 ans de carrière. Cindy Crawford qui rappelle qu'avec lui, il n'était jamais question de coiffure, de maquillage ou de style. Il avait une manière de faire de vos imperfections quelque chose d'unique et de beau. Un photographe qui n'oubliait pas non plus d'être généreux. Il avait offert en 2014 100 de ses plus beaux clichés pour un numéro spécial de l'album photo de Reporters sans frontières.
Peter Lindbergh avait 74 ans et tout à l'heure à 20h, rediffusion de L'Heure Bleue avec Laura Adler. C'était en mars dernier et puis sur la page de Boomerang sur le site d'Inter, vous trouverez l'entretien de 2014 avec Augustin Trapenard. Et puis je vous signale aussi la disparition d'un des visages du club Dorothée. C'était dans les années 80 à la télévision. La comédienne Ariane Carletti est morte ce matin. Ariane de Récréa 2 et donc du club Dorothée. Elle avait 61 ans.
Un petit morceau d'enfance quand même. Merci aussi. Beaucoup Sébastien Paour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Sébastien Léa, changement de temps au programme de demain.
Oui, hormis le pourtour méditerranéen qui gardera un soleil généreux demain, le ciel sera généralement nuageux sur tout le reste du pays. Le temps sera plutôt sec et quelques belles éclaircies arriveront à apparaître, mais les nuages les plus épais pourront aussi lâcher quelques averses. Le risque d'averses concernera surtout la Normandie, les Hauts-de-France, la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne et le Limousin. Les averses seront encore plus nombreuses sur les Alpes, en particulier sur les Alpes du Nord, alors que sur le sud de la chaîne, des orages pourront retentir demain après-midi.
Et forte baisse des températures aussi.
Oui, l'ambiance était chaude et même comme estivale cet après-midi, mais les maximales vont perdre 7 à 8 degrés demain, repassant même sous les valeurs de saison. On attend 17 degrés à Brest et au Havre, 18 degrés pour Lille, 20 degrés à Paris, Dijon et Clermont-Ferrand, 21 degrés pour Grenoble, La Rochelle et Biarritz et 23 degrés à Toulouse. On trouvera quand même un peu plus de douceur autour de la Méditerranée, 27 degrés à Nîmes, 29 degrés à Bastia et 30 degrés à Toulon, mais le Mistral et la Tramontane seront forts avec des rafales à plus de 90 km/h, ce qui va augmenter le risque d'incendie.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.